Bien, bonjour à tous. Merci d'être là, bienvenue. C'est donc la première séance de la nouvelle saison, la seconde, de ce séminaire. Et donc nous allons, si vous le voulez bien, ensemble renouveler l'expérience. D'ailleurs, en inaugurant ce qui va être une introduction générale d'un programme qu'on va vous distribuer, et que nous allons mener, Adrien Genoudet et moi, pour commencer aujourd'hui. En ouvrant donc cette séance, selon les formes accoutumées, comme on disait jadis, lorsqu'il s'agissait au Moyen-Âge d'organiser le rassemblement du commun, j'ai envie de donner justement à cette introduction qui va ouvrir la séance d'aujourd'hui le titre suivant, « Renouveler l'expérience ». C'est-à-dire, c'est une belle expression, au fond, quand on y songe, c'est-à-dire quand on en rêve. Et je vais tenter de décrire sous ses différentes facettes cette expression, qu'est-ce que peut vouloir dire renouveler l'expérience ? Est-ce qu'il s'agit de refaire la même ? Est-ce qu'il s'agit de la faire à nouveau ? Est-ce qu'il s'agit de la rendre nouvelle et avec elle de se renouveler soi-même ? Renouveler l'expérience, pourquoi ? D'abord parce que ces formes accoutumées, sont celles de l'année précédente. Nous avons choisi, au fond, parce que nous souhaitons toujours construire un lieu commun de la discussion par délégation de parole. Nous avons choisi donc de renouveler l'expérience de l'année dernière qui consistait à demander à un collègue et ami, donc la semaine prochaine, c'est Paulin Ismar, ici présent. Ensuite, 2 semaines plus tard, c'est Pierre Monnet. Et ensuite, 2 semaines plus tard, c'est Quentin de Luermoz. Demandez donc à un collègue et ami. Ami, c'est important parce qu'effectivement, la politique de l'amitié est ce qui nous reste sans doute pour construire du commun. D'en inviter d'autres et ainsi de construire la base discursive d'un atelier collectif. Ces formes accoutumées sont celles donc de l'année précédente. S'il y a une tradition, elle est d'invention récente. Et voilà pourquoi il n'est pas besoin de les décrire. Et voilà d'ailleurs ce qui pose problème souvent aux historiens de la vie communale dans l'Europe médiévale. Les formes accoutumées de l'échange, du rassemblement, de la délibération, du suffrage sont précisément ce qu'on ne décrit pas. Hein, lorsqu'on a dans les sources selon les formes accoutumées, ça veut dire d'une certaine manière que la tradition est déjà inscrite et le fait d'une certaine manière qu'on ne la voit jamais émerger mais au fond au mieux s'installer, c'est quelque chose dont j'aurai à redire un mot tout à l'heure. Donc d'une année à l'autre, ce ne sont pas seulement les formes de l'échange qui se transmettent mais ce mot qui passe de l'un à l'autre et qui passant se renouvelle. Expérience. Le titre général du séminaire de l'année dernière était, je le rappelle, « Les effets de la modernité, expérience au pluriel historiographique » et cette année, « L'expérience communale ». Alors, de la modernité, il sera question cette année, sans doute, parce que, en se donnant pour objet l'expérience communale, on cherche sans doute, sinon une autre généalogie de notre modernité, du moins une manière non généalogique d'envisager les effets de cette modernité, c'est-à-dire de ne pas la laisser dévaler seule, tranquillement, la pente fatale de l'histoire, de la forme étatique, de l'histoire de la souveraineté, mais au contraire adopter une position discontinuiste, hétérogène, qui, plutôt que de saisir une tradition en train de se construire, eh bien, donne raison à toutes les discontinuités qui peuvent la rendre hétérogène à elle-même. Donc il s'agit de faire des essais, si j'ose dire, des expériences, et ces expériences sont d'emblée des expériences historiographiques. Or, à partir du moment où on tente une histoire de la modernité qui est décrochée de la pente fatale de la souveraineté, mais qu'on cherche effectivement à la rendre par ce tireté des expériences communales, eh bien le terme d'expérience qui désignait la démarche l'année dernière désigne aujourd'hui l'objet. Un mot quand même sur la démarche. Qualifier d'expérimentale la méthode d'une science non expérimentale comme la discipline historique, j'ai appris ici que justement l'histoire faisait partie de ces disciplines qui, au fond, contrairement à d'autres proprement expérimentales, analysent des faits non reproductibles. Voilà. Et que cette distinction entre les faits non reproductibles qui n'ont lieu qu'une fois et ceux que l'on peut reconstituer, réexpérimenter à nouveau, eh bien, contrairement à une idée reçue, elle ne sépare pas les sciences de l'homme des sciences expérimentales, mais elle passe à l'intérieur de chaque science expérimentale. Il y a une biologie évolutive, une autre qui ne l'est pas, et c'est vrai aussi pour la chimie, pour la physique, etc. En tout cas, le fait de considérer qu'on peut avoir un usage expérimental d'une discipline comme l'histoire qui ne l'est pas, est caractéristique, me semble-t-il, du tournant pragmatique au mi-temps des années 90. Je ne vais pas être très long sur ce plan-là, mais enfin, à partir du moment où on utilise ce qui est devenu le mot de passe, en fait, de notre communauté, de ce petit nous des historiens, expérience, on doit quand même essayer de comprendre ce qui se cache derrière lui. On peut se reporter pour cela au livre paru en 1995, justement, sous la direction de Bernard Le Petit, sous le titre « Les formes de l'expérience, une autre histoire sociale », qui était le manifeste en acte de ce qu'on a appelé le tournant critique, enfin l'un des tournants critiques de la revue Les Annales au début de la décennie. S'agissait-il, comme le proposaient Jean-Yves Grenier et Bernard Le Petit dans leur note critique parue en 1989, justement, dont on comprend bien évidemment qu'elle s'inscrivait aussi dans un contexte, disons, un horizon d'attente politique, cette note critique de 1989 à propos d'Ernest Labrousse qui s'appelait justement « L'expérience historique », s'agissait-il donc de constituer le socle empirique de la discipline en le référant, en référant la réalité qu'elle vise à construire l'expérience vécue des acteurs. En tout cas, je rappelle que pour Bernard Le Petit, le souci maintenu du réalisme méthodologique oblige à ce qu'il appelait la sanction finale de la confrontation entre les énoncés des historiens, issus donc de leur expérimentation historiographique, et ce qu'il appelait l'expérience individuelle des acteurs du passé. Donc tout cela formait, je pense, le socle de ce qui est devenu la pratique commune, pragmatique, donc, de l'histoire aujourd'hui, pourvu, corrigeait Roger Chartier, que ce jeu d'échelle ne débouche pas sur l'instrumentalisation individualiste du paradigme de l'action. Au fond, je dirais qu'à relire ces débats aujourd'hui, on s'étonne de voir naître un sociolecte qui constitue aujourd'hui les formes accoutumées de l'impensé méthodologique des historiens. Et au fond, peu importe d'ailleurs les définitions conceptuelles, à force de le redire, et c'est ça aussi un lieu commun, on ne sait plus bien ce que désigne cette inflation dans le vocabulaire des historiens de l'expérience, tentons l'expérience, etc. C'est plutôt une panoplie d'attitudes, d'habitudes, de questionnements que l'on retrouve, tantôt étonné, tantôt attendri selon l'humeur, en reprenant justement les formes de l'expérience. Sans jouer sur les mots, je dirais que l'expérience est ce qui nous est commun en tant que nous sommes des historiens. Or, sur cette question du commun se lit, par exemple, l'article inspirant dans ce livre de Jocelyne Darlia, la question des lieux communs, des modèles de souveraineté dans l'islam méditerranéen. Et j'avais personnellement pris appui sur ce texte lorsqu'il s'agissait de comprendre, dans les discours de l'Italie communale, la dynamique de politisation et de dépolitisation du bene commune et comment, d'une certaine manière, ce lieu commun au sens, non pas topographique, mais stéréotypique, du bene commune peut désigner, selon les moments forts ou les moments faibles, tantôt rien ou pas grand-chose, ou l'implicite d'un accord, et alors on sera dans l'antonyme asymétrique qui fait qu'aucun gouvernement ne peut se réclamer d'autre chose que du bien commun. Tantôt, au contraire, il se repolitise, il se réactive, il se renouvelle. Et ça veut dire quelque chose de plus précis, de plus nerveux, de plus conflictuel, et y compris, évidemment, dans, et toute l'histoire de l'Italie communale n'est pas va-et-vient, un balancement entre, justement, des moments de politique du commun et des moments qui ne le sont pas, mais c'est des moments où le commun ne veut plus rien dire, où il s'évide, et le moment où, au contraire, il se recharge de sens. Et cette explosivité, en fait, vocabulaire, c'est, je crois, ce que nous allons tenter de chercher ensemble. Donc un lieu commun met en commun ceux qui s'y retrouvent et suscite par conséquent moins l'adhésion que reconnaissance ou le sentiment immédiat d'identification. Et voilà pourquoi le lieu commun, pour préserver la fluidité et la labilité de son sens, comporte nécessairement de l'implicite. On peut même aller plus loin et dire, toujours avec Jocelyne Darlia, que la banalité du topos configure une communauté culturelle, que tous ceux qui admettent comme banal la notion de bien commun ont quelque chose d'essentiel en commun. Et que, précisément, lorsqu'il faut réexpliciter l'engagement, l'attachement, l'émotion que nous avons par rapport à ce qui nous est commun, c'est que quelque chose, effectivement, est en train de se déchirer dans la concorde. Et que cette concorde, au fond, elle se qualifie par notre capacité à accepter de l'implicite. La valeur de l'implicite dans le lieu commun est aussi peut-être, je la cite, toujours Jocelyne Darlia, la clé du relatif des intérêts dont les historiens font preuve à l'égard de ce qu'ils identifient comme topoi, qui s'en tiennent le plus souvent, comme on l'a déjà souligné, à simplement nommer le lieu commun, sans plus le traiter lui-même comme objet d'histoire, n'est-ce pas en effet le signe qu'ils adhèrent eux-mêmes, au moins partiellement, à cet implicite. Donc, au fond, renouveler l'expérience, ça veut d'abord pouvoir dire, peut-être, d'une certaine manière, se situer dans l'implicite de cet usage commun qu'ont les historiens du terme d'expérience, voilà, premier sens, celui qui était nôtre l'année dernière, mais quand même, avec l'expérience communale, c'est autre chose qu'on vise. Et ce sera le deuxième point de cette introduction. Je me rends compte que j'ai oublié de vous dire ce qu'on est en train de faire. Je vais parler, là, bon qu'à ça, comme disait Beckett, je vais parler. Ensuite, on va discuter. Ensuite, Adrien parlera. Et puis ensuite, on rediscutera. Voilà, c'est ce qu'on appelle un séminaire. Bon, même si la forme accoutumée et intimidante des lieux ne le laisse pas deviner immédiatement. Nous voilà donc ramenés de l'expérience comme démarche historique à l'expérience comme objet d'histoire, puisqu'il s'agira bien de cela cette année avec l'expérience communale que je sente d'introduire et dont on verra comment ensuite se déploieront les différentes séances. Comment la définir, cette expérience ? Cette fois-ci, au sens d'objet d'histoire. Je vous rappelle que le terme d'expérience signifie, dès le XIIIe siècle, une connaissance acquise par la pratique. C'est ainsi ça apparaît chez Brunetto Latini, par exemple, dans Le Trésor. Et par extension, la somme de ces connaissances accumulées. On dira alors une longue expérience. Donc ça peut vouloir dire à la fois ce qui s'impose par expérience individuelle et ce qui va se transmettre. Donc, toujours dans ce mot qui, vous voyez, plus complexe qu'il n'y paraît, l'expérience désigne donc, signale Littré, à la fois l'acte d'éprouver ou d'avoir éprouvé et la connaissance des choses par un long usage, la longue expérience. Une jeune souris de peu d'expérience crut fléchir un vieux chat, c'est dans La Fontaine. Voilà pourquoi, lorsque Claude Bernard définit en 1878 ses principes de médecine expérimentale, il joue de cette ambivalence du mot en français pour donner dans un sens concret le nom d'expérience aux faits qui nous fournissent cette instruction expérimentale des choses. Alors, dans ce buissonnement de sens, comment se frayer un chemin ? Je vous propose d'utiliser, comme souvent, la poésie comme leçon d'exactitude, et d'user du fil étymologique pour trancher, retrancher, émonder, enfin, se faire un chemin. Philippe Lacoue-Labarthe, dans un texte intitulé « La poésie comme expérience », paru en 1997, ramène cette notion, l'expérie, au radical « per » qui désigne à la fois le passage et par « periculum » le danger. Donc, expérimenter, c'est passer à travers, aller jusqu'au bout, toucher la limite. Voilà ce qu'est tenter ou mener une expérience. Et l'expérience est donc, pour un poète comme Henri Michaux, ce moment de confiance, de bascule, disons de courage, où l'on se confie au pouvoir du déséquilibre. C'est ce qu'il écrit dans Passage. Non, pas question de paix, nous sommes inépuisables en expérience. Nous sommes inépuisables en expérience. Marielle Massé commente ce passage dans son dernier livre, Style, critique de nos formes de vie, parce qu'il y va de notre capacité à supporter ce que Walter Benjamin appelle justement la chute du cours de l'expérience, son dépérissement, son aveuglement, son affadissement, son affaiblissement, pour reprendre toutes les lectures catastrophistes que peuvent faire de Benjamin, Adorno ou Agamben. En fait, non, on ne peut pas accepter ça. Et d'une certaine manière, c'est affaire de style. On ne peut acquiescer à l'idée d'un appauvrissement de l'expérience. Nous sommes inépuisables en expérience. Là est le danger, là est le fait que nous ne serons pas en paix, que le style ne se perd pas, puisque la vie humaine a cette ressource de rénovation gestuelle, on peut refaire les gestes, de renouvellement, que de ressources et que de réengagement dans des allures, dans des usages. Je cite Marielle Massé, « Il n'y a pas d'appauvrissement de l'expérience, donc, puisque l'expérience est le fait même de la réserve, de la ressource, de l'envoi, de l'ouvert. Il n'y a pas de disparition du style, c'est-à-dire du fait que les vies prennent forme, de même qu'il n'y a pas de non-lieu et qu'il n'y a pas de vie nue. Mais il y a telle expérience qui disparaît, telle forme de vie, tel geste, tel régime d'objet, et plus clairement encore, telle langue ou telle espèce, qui est elle-même comme une idée complète du vivre. » Ça me paraît assez beau et juste, et ça me paraît effectivement poser ce qui peut nous réunir dans la certitude, au fond, que rien n'est perdu pour l'expérience, mais que des formes d'expérience peuvent, en revanche, être à sauver, qu'elles se succèdent sans s'articuler, qu'elles peuvent s'accumuler et se transmettre, et qu'on aura à saisir les expériences communales comme une histoire discontinue du politique, des expérimentations politiques, et quand même, malgré tout, la capacité qu'on a de faire une histoire commune avec ces différentes expériences. Ce qui fait l'inépuisable de l'expérience, ce pourquoi nous sommes inépuisables d'expérience, c'est précisément qu'elles peuvent se renouveler, revenir à nouveau et nous rendre nouveaux. Ainsi pourrait-on s'appuyer provisoirement sur la manière empiriste et vitaliste dont Gilles Deleuze s'empare de la notion d'expérience. Sa réévaluation philosophique de l'expérience passe par une relecture de David Hume dans Empirisme et subjectivité. Pour Hume, il s'agit, pose d'emblée Deleuze, de substituer à une psychologie de l'esprit une psychologie des affections de l'esprit. Et le sujet n'est donc pas constitutif de l'expérience, contrairement à la position kantienne, puisque c'est à l'intérieur d'elle, de l'expérience, que le sujet se constitue. Et en ceci, il n'est pas un sujet universel, mais foncièrement un sujet pratique. Je m'appuie ici sur l'analyse d'Anne Sauvanargues dans son livre Deleuze, L'empirisme transcendantal, qui est paru en 2010, qui montre que le donné de l'empirisme est l'expérience d'une collection de perceptions distinctes du monde, croyances, habitudes, affects, sensations, impressions, passions, que toutes diffèrent, que toutes nous séparent, et que, justement par le fait qu'elles diffèrent et nous séparent, si l'on veut produire une expérience commune, elle ne sera toujours que la résultante provisoire de ces différences. Et voilà pourquoi l'empirisme ne situe la pensée ni dans la réalité extérieure du monde, ni dans l'intériorité du sujet, mais entre le sujet et le monde. Et c'est d'ailleurs l'expérience de l'art qui, pour Deleuze, rend sensible ce partage. Alors si je convoque ici la pensée discontinuiste de Gilles Deleuze, ce n'est pas seulement pour préparer l'usage qu'en fera peut-être Adrien tout à l'heure, c'est parce que ça permet d'appréhender effectivement de manière hétéronome et déterritorialisée l'histoire des pouvoirs. Mais on pourrait aussi saisir cette histoire des pouvoirs à partir d'un autre point de répulsion. Par exemple, dans une autre tradition philosophique, en partant du désaccord entre Castoriadis et Lefort sur l'expérience démocratique. Et là, effectivement, on s'approche sans doute de la séance qui, dans 15 jours, autour de la cité grecque, va convoquer un premier corpus, au fond, de réflexion théorique, disons, plutôt vers la philosophie politique. Pour Castoriadis, il y a une réflexivité inhérente à l'institution démocratique qui doit être pensée dans la perspective de l'autonomie. Un peuple n'est libre que lorsqu'il obéit à la loi qu'il s'est donnée. Au contraire, pour Claude Lefort, on ne peut penser un avènement de la liberté qu'à partir du nouage entre le dehors et le dedans, la loi se situant à l'horizon d'une hétéronomie indépassable. Or, alors on verra pour Castoriadis, mais il s'agissait pour Claude Lefort d'une tradition politique qu'il caractérisait comme européenne. On le lit dans un article tardif qui est paru dans la revue Esprit en 2004 sous le titre « L'Europe, civilisation urbaine ». Et c'est un article important sur lequel je m'appuie un instant. Duquel Olivier Mongin, par exemple, dans La condition urbaine, a donné un commentaire intéressant et qui nous situe effectivement là où on va être, je dirais, pas exclusivement, mais pas accidentellement non plus, lorsqu'on parle de l'expérience communale, c'est-à-dire prioritairement en ville. Donc qu'est-ce qu'il y a de spécifiquement urbain ou citadin dans l'expérience communale. Alors qu'on sait historiquement que, par exemple, au Moyen Âge, la commune urbaine n'est qu'une des déclinaisons d'un mouvement, disons, communaliste qui n'a rien de spécifiquement urbain. Ben, c'est parce que la ville est le lieu d'une triple expérience. Une expérience corporelle, une expérience publique et une expérience politique. Une expérience corporelle, parce qu'elle est faite d'écarts, d'intervalles, de trajectoires, de tissus narratifs, parce que d'énonciations, parce que, au fond, la ville est affranchissement des corps parlants, ne serait-ce que parce qu'elle permet des trajectoires infinies dans un espace circonscrit. Voilà. Mais c'est aussi une expérience publique de mise en scène de soi, d'exposition, où l'on s'expose au commun, et cette flânerie baudelairienne, entre solitude et multitude, pose la question de l'extériorité, de la mise en scène de soi, et surtout de la mise en puissance de la solidarité. Et c'est enfin, et c'est ça qui nous intéresse peut-être le plus, une expérience politique qui fait advenir ou pas la res publica. C'est dans cette territorialisation politique que se comprend l'émancipation communale, mais comme potentialité du devenir historique, qui l'a fait advenir ou pas. Et c'est en cela, effectivement, que l'expérience est toujours incertaine. Parce qu'il y a des villes qui développent la forme communale et d'autres, le plus souvent, pas. Claude Lefort écrit alors ceci. « La révolution démocratique moderne se reconnaît à cette mutation. Point de pouvoir lié à un corps. Le pouvoir apparaît comme un lieu vide et ceux qui l'exercent comme de simples mortels qui ne l'occupent que temporairement ou ne sauraient s'y installer que par la force ou la ruse. » Là, c'est le fort lecteur de Machiavel qui écrit « Que par la force ou la ruse. Point de loi qui puisse se fixer dans les énoncés, dont les énoncés ne soient contestables. » Voici pourquoi, et je reprends ici le propos général qui nous rassemble, par expérience communale, nous envisagerons donc, et j'achève là le deuxième point de cette introduction, à la fois trois choses. La première, c'est l'expérimentation politique d'un gouvernement du commun. Elle se manifeste à certains moments de l'histoire. Elle précipite certaines formes politiques qui sont plus ou moins durables, notamment dans les régimes urbains. Mais elle constitue aussi une potentialité du devenir historique de toute société politique. Il existe donc une histoire discontinue de ces expériences qui ne se laisse pas circonscrire dans le grand récit de l'histoire de la souveraineté. Et cette tradition, elle est transmise, elle est rêvée, elle est constamment réinventée, renouvelée, elle forme, dans sa deuxième acceptation, l'expérience communale comme devenir. Mais on l'entendra également dans un troisième temps, et au fur et à mesure qu'on s'approchera du contemporain, et surtout dans la dernière séance, avec le partage du sensible propre aux expériences contemporaines, en particulier la Commune de Paris, dont Quentin de Lermoz nous montrera comment, au fond, elle peut se rétroprojeter sur d'autres expériences. On l'entendra donc comme expérience sensible, dans un sens travaillé par l'histoire des émotions politiques. Qu'est-ce que ça fait de faire commune? Qu'est-ce que ça fait vraiment, je veux dire corporellement, en quoi faire commune affecte-t-il les vies de ceux qui s'y engagent, qui s'y abandonnent, qui s'y risquent, qui s'y exposent. Donc il convient d'expliciter, et ça sera mon troisième point, les raisons pour lesquelles je dis affect, risque, peuple exposé, au sens de Didier Huberman, peuple en larmes, peuple en armes. Pourquoi aujourd'hui, et particulièrement aujourd'hui, nous sommes affectés par cette question? Et je pense que ne pas l'expliciter, le laisser effectivement dans l'implicite du commun, du sociologue des historiens, c'est priver d'un tranchant qui nous sera, je crois, nécessaire. Ce qui en constitue l'actualisation, sinon le renouvellement. Prenons par exemple une tradition philosophique qu'on pensait affaissée, fatiguée, et qui reprend du poil de la bête. Prenons par exemple la critique de la raison dialectique de Sartre, relu, renouvelé dans un livre récent de Sophie Vanisch, « La révolution n'est pas un mythe ». Jean-Paul Sartre, dans la critique de la raison dialectique, distinguait les collectifs des groupes en fusion et les groupes en fusion des groupes assermentés. Les premiers, les collectifs, sont des regroupements d'individus inertes. Nulle liberté n'y préside. Il les décrit de manière assez banale, d'ailleurs, selon la psychologie de la foule, avec des mouvements informes, il appelle ça inertes, qui sont ceux de la contagion, etc. Le passage du collectif au groupe est comme un changement d'état en physique ou en chimie, qui est produit par la nécessité d'agir. cette dissolution dans le groupe, il l'appelle avec Malraux, dans La Voix royale, l'Apocalypse. Et Sartre décrit classiquement justement cette transmutation à partir d'un récit qui est la prise de la Bastille. Au départ, la ville et la foule, la ville dans sa configuration totalisante est totalisée, c'est l'état de siège qui la détermine comme contenant, et la foule, elle est, je cite Sartre, scellée par l'acte militaire qui la produit comme foule enfermée. C'est la nasse. Donc, ça crée ce que Jaurès appelle une situation de haute température historique, qui crée le groupe en fusion. Sartre produit une description qui est purement philosophique, si on la relit aujourd'hui, qui est, je dirais, hallucinatoire, de la prise de la Bastille. Intéressant de la comparer avec d'autres choses qu'on a pu lire l'année dernière, comme Éric Vuillard, 14 juillet, par exemple. Cette fusion d'une praxis ressemble, commente Sophie Vanisch, à ce que les sciences sociales appellent aujourd'hui la désectorisation, c'est-à-dire ce moment créateur d'un événement historique dans le champ social. Cette effervescence crée une explosion de la liberté, mais le groupe en fusion est instable. Donc dès l'action réalisée, il risque de disparaître. Et pour qu'il ne s'effondre pas, comme un soufflet, pour qu'il produise dans la réciprocité médiée sa propre inertie, il lui faut y user d'une fonction consolidatrice que Sartre appelle le serment, et qui désigne à la fois ce que les médiévistes, les modernistes, enfin tout le monde, les antiquisants, appellent une conjuration, le fait de jurer ensemble, mais au-delà, c'est toute capacité de limiter cette liberté du dedans par la violence, et c'est ce que Sartre appelle terreur. Le tiers, je le cite, le tiers régulateur découvre dans la peur décroissante du danger la véritable menace qu'il faut compenser par une peur croissante de détruire le groupe. C'est intéressant, aujourd'hui. Mais aujourd'hui. Je relis. Le tiers régulateur découvre dans la peur décroissante du danger la véritable menace qu'il faut compenser par une peur croissante de détruire le groupe. On doit donc bien comprendre pourquoi cette description retrouve une acuité, sinon une actualité, pourquoi l'on est tenté de renouveler l'expérience. C'est que faire commune est devenu notre morale politique minimale, notre mot d'ordre faute de mieux. Je parle en tout cas d'une certaine pensée critique. Non seulement radicale, non seulement la commune n'est pas morte, mais elle revient, lisait-on en 2014 dans « À nos amis ». Ce pacte de se confronter ensemble au monde, cette qualité de lien qui consiste à consentir à se lier, c'est la nouvelle manière de faire force. Ajustée à la fois aux espérances révolutionnaires, mais aussi à la volonté de faire fructifier son capital d'autochtonie, qui est peut-être effectivement ce qu'il y a d'impérieux politiquement, c'est-à-dire desserrer, on va dire, la tenaille entre les cosmopolites et les enracinés. C'est-à-dire accepter de faire force, de rassembler ces forces là où on est. C'est-à-dire faire fructifier, oui, ce que les sociologues appellent le capital d'autochtonie, là où on est. D'une certaine manière, cela permet de produire des « nous » localisés. C'est cela aussi, l'expérience commune. Je cite encore, page 221, à nos amis. « Le propre de la situation à laquelle une commune fait face est qu'à s'y donner entièrement, on y trouve toujours plus que ce qu'on y amène ou que ce qu'on y cherche. On y trouve avec surprise sa propre force, une endurance et une inventivité que l'on ne se connaissait pas et le bonheur qu'il y a à habiter stratégiquement et quotidiennement une situation d'exception. C'était en 2014, mais nous avons connu depuis ce que Patrice Maniglier, dans le numéro spécial qu'il a dirigé pour la revue Les Temps modernes, intitulé « Nuit debout et notre monde », ce qu'il a appelé donc, et pourtant avec beaucoup d'empathie, puisqu'il tente de décrire de l'intérieur l'expérience de Nuit debout, ce qu'il a appelé donc beaucoup d'ennui, une certaine tristesse, un sentiment de vacuité. Qu'il décrit ainsi, l'assembléisme est la maladie du rassemblement politique. On se réunit, on débat, on finit par débattre sur le débat, mais comme il le fait remarquer, rien ne menace plus le débat que cet impératif de débattre. D'où le spectacle morne d'un rituel essentiellement soucieux d'obéir à ses propres règles, à l'époque en particulier celle inflexible de l'égalité du temps de parole. Et au fond, ce qui est intéressant dans ce texte de Maniglier, très intéressant pour nous, c'est que ben justement, il ne se contente pas de faire la chronique des manques, des échecs. Il décrit un mouvement qui ne revendiquait rien, qui affrontait l'expérience morale du déni de reconnaissance, qui assemblait des corps comme des corps dans une masse amoureuse d'elle-même, qui rendait visible une agglomération des incertitudes dans nos rapports aux autres lieux, donc, je le cite, une désertion morale des lieux de notre vie. Nous désertons, oui, mais vers l'intérieur. Nous sommes ici, non pas parce que nous pensons que ce lieu est le nôtre, mais parce que nous ne nous sentons plus appartenir aux lieux qui nous sont attribués. Et ça, à y bien y réfléchir, être ici, non pas parce que nous pensons nôtre, c'est ici, mais parce que nous ne nous sentons plus dans les lieux assignés, est quand même une expérience, à mon avis, puissamment historique, qui mériterait d'être testée dans d'autres situations. Et voilà, au fond, pourquoi cette présence était floue, incertaine, frêle. C'est parce qu'au fond, elle ne devait donner rien d'autre à voir, à exposer, que la forme vide de l'indétermination du politique à la Claude Lefort. Au fond, l'expérience communale s'éprouve à la fois par le rassemblement et par la dispersion. Le rassemblement, il a été récemment pensé par Judith Butler dans un livre traduit sous le titre « Rassemblement, pluralité, performativité et politique ». Et Butler met en avant l'enjeu des corps parlants, sous le double motif de la performativité et de la vulnérabilité. Rassembler, se rassembler, consiste à se rendre vulnérable. Et on le voit, par exemple, très bien dans les moments, les émotions médiévales. Il n'y a pas besoin de violence. Il n'y a pas besoin de revendication. Il n'y a même pas besoin de leader, de mot d'ordre. Le seul fait d'assembler des corps parlants, d'en faire une cible, pour la répression, c'est cette vulnérabilité qui crée la performativité du fait de s'assembler. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'on ressent aujourd'hui très fortement. Judith Butler refuse l'idée qu'il puisse y avoir une généalogie de la fonction revendicatrice des rassemblements et écrit « Tant que l'État contrôle les conditions de la liberté de rassemblement, la souveraineté populaire est un instrument de la souveraineté étatique. Et les conditions de légitimation de l'État disparaissent dès que la liberté de rassemblement est dépouillée de ses fonctions critiques et démocratiques. » Donc il ne s'agit pas du tout de définir les rassemblements en fonction de ceux qui réussissent et de ceux qui échouent, et l'échec étant leur incapacité à faire avancer des revendications. Mais je viens d'être effectivement au creux de l'expérience, au cru de la vie, c'est-à-dire au niveau même sensible de cette expérience. Et voilà pourquoi, plus encore peut-être que la mobilisation, la dispersion est un enjeu politique aujourd'hui. La capacité à répondre ou à ne pas répondre, à venir ou pas, à consentir ou non, à s'y retrouver ou à ne pas s'y retrouver, à expliciter ou demeurer dans l'implicite, là se joue l'autonomie. Et comment se rassembler si on ne sait pas ensuite comment on va se disperser? Il faut relire ici la somptueuse page de Maurice Blanchot dans La communauté invisible, 1983. Il ne faut pas durer. Il ne faut pas avoir part à quelque durée que ce soit. Cela fut entendu en ce jour exceptionnel. Personne n'eut à donner un ordre de dispersion. On se sépara par la même nécessité qui avait rassemblé l'innombrable. On se sépara instantanément, sans qu'il y eût de reste, sans que soient formées ces séquelles nostalgiques par lesquelles s'altère la manifestation véritable en prétendant persévérer en groupe de combat. Le peuple n'est pas ainsi. Il est là, il n'est plus là. Il ignore les structures qui pourraient le stabiliser. Quatrième point, et avant-dernier. Imaginons maintenant un historien qui souhaiterait faire l'histoire de l'expérience communale en Italie dans toutes ses dimensions. Un historien qui aurait entendu les sages exhortes des censeurs, l'enjoignant poliment mais fermement, de se mettre au travail des livres qu'on est en droit d'attendre de lui, c'est-à-dire fondamentalement sur l'histoire de l'Italie communale. Il lui faudrait donc saisir le phénomène dans toute son ampleur. Et c'est pourquoi le programme que l'on vous propose s'étend sur 2 ans. Cette année, l'expérience communale saisit effectivement dans toute l'ampleur chronologique, transdisciplinaire, avec des expériences situées, la cité grecque dans 15 jours, le rapport de la commune et de la confessionnalisation dans 4 semaines avec Pierre Monnet et la question de la sociologie historique weberienne au fond des villes allemandes, et puis ensuite plutôt l'expérience sensible de l'émotion politique telle qu'elle se définit par l'anthropologie de la Commune de Paris rétroprojetée sur d'autres expériences sensibles avec Quentin Delermoz pour la dernière séance. En tout cas, ça veut dire que, et puis donc ça c'est la première année, puis l'année prochaine, ben, on saisira, j'espère, cette expérience communale dans sa spécificité italienne, mais peut-être envisager, je ne sais pas encore, on verra, on en parlera ensemble, moins comme une exception que comme une accentuation. C'est-à-dire que l'Italie ou la Flandre, hein, d'une certaine manière, le monde italien et flamand, au fond, propose un paroxysme d'un mouvement européen. Dans l'histoire de l'Europe urbaine, justement, j'avais tenté avec Denis Mingeot de proposer une géographie différenciée de l'émancipation urbaine en Europe en dessinant un gradient d'autogouvernement du plus intense, du plus effervescent, disons, le modèle italien ou flamand, au plus relâché, disons, le monde russe et d'Europe centrale, Novgorod excepté, en tentant justement de ne pas faire une cartographie des manquements, c'est-à-dire que c'est une géographie différenciée. Ça ne veut pas dire que là où l'autogouvernement ne se réalise pas pleinement, c'est qu'il y manque quelque chose. Il faut, au contraire, saisir cette histoire dans une grammaire commune de la gouvernementalité, délibération, suffrage, etc., et cette histoire, elle est contrastée parce qu'elle peut se ramener à quelques principes de causalité. On en avait suggéré trois, mais il y en a sans doute d'autres, et de cela il faudra discuter. Disons, il y a quand même un indice de développement économique qui explique pourquoi les deux Italies n'ont pas le même devenir communal, pourquoi la Normandie et la Picardie agissent différemment à partir du XIIe siècle. Il y a une question aussi qui est liée à l'intensité et à l'ancienneté des traditions corporatives, parce qu'il faut bien, d'une certaine manière, qu'une habitude préexiste, une disposition pour que, effectivement, se fixe et se fige l'expérience communale. Et sans doute y a-t-il aussi, et peut-être surtout, des contextes englobants qui, de la souveraineté, qui consiste à dire quel désordre doit-on conjurer. Étant entendu que nous savons aujourd'hui que pour le mouvement communal européen d'une manière générale, il est dans la poursuite du mouvement de paix et qu'il faut bien qu'il y ait, au fond, un manque à combler, une lacune de souveraineté à conjurer pour que, effectivement, se déclenche le mouvement. Il y aurait donc, au fond, la manière dont on aura à le saisir, c'est peut-être de comprendre le rapport entre conjuration et conspiration, construire des comparables, proches et lointains, proches, Italie septentrionale, Flandre, lointain, c'est-à-dire en quoi ce modèle est, comme le pensait Claude Lefort, mais comme le pensait aussi avant lui Max Weber, spécifiquement européen. Qu'est-ce que c'est que cet idéal type de la conjuration, justement, qui crée le groupe assermenté de Max Weber. Comme l'a montré Florent Sulac, qui va venir parler dans 4 semaines, la conjuratio, c'est un modèle théorique pour Max Weber. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le ramener à une fiction, mais enfin, elle en a la force narrative. Toute forme de domination politique repose sur des croyances partagées en la légitimité des dominants, et cette croyance repose sur des fictions qui ont un rôle de stabilisation de la domination. Et on peut se demander à quoi ça sert historiquement, cette fiction théorique du serment collectif. La reconnaissance de la personnalité politique de la commune anticipe, rend possible un nouveau type de droit territorial qui sera adopté par l'État moderne, même si le serment n'a pas toujours lieu, mais quand il a lieu, il permet de comprendre, je dirais, la nature horizontale du lien, même si les serments unissent souvent des familles et non des individus, il n'en reste pas moins qu'ils rendent possible l'individualisation de l'activité humaine, même si la conjuration violente n'a pas lieu partout, quand elle intervient, elle exprime avec netteté le rapport de force qui entraîne l'usurpation des droits féodaux par la commune. Et donc, voilà pourquoi la commune est comprise comme une fraternisation, même si le serment n'a pas lieu, et que le récit adéquat à Weber, mais dont il faut comprendre effectivement qu'à ce moment-là, il faut saisir, je dirais, la puissance de l'idéal type comme un outil de comparaison. Au fond, le principe de... faut prendre au sérieux donc cet idéal type pour mener, je l'ai dit, la comparaison, notamment, je pense, avec l'Occident musulman. On va tenter de le faire. De ce point de vue, le terrain ibérique est important parce que, au fond, on verra que différentes traditions s'y conjuguent pour proposer, là encore, une généalogie plus complexe de l'expérience communale. Et c'est ainsi qu'on pourra caractériser l'expérience communale en tant qu'expérience. Et pour terminer, cinquième et dernier point, j'en suggérerais une triple dimension. C'est une expérience temporelle, c'est une expérience spatiale et c'est une expérience langagière. C'est-à-dire qu'il s'agit de saisir le temps du commun, le lieu du commun, et la langue du commun. Le temps du commun, commune, mot nouveau et détestable, on connaît le cri du cœur de Guibert de Nogent au XIIe siècle, et il faut toujours ramener cette expérience du temps à sa force explosive. Prendre la mesure du scandale, de l'indignation de, je prends les exemples les plus banals, les plus célèbres, l'indignation par exemple de l'évêque Othon de Freising lorsqu'il accompagne son neveu, l'empereur Frédéric Barberousse, en Italie du Nord, en 1154, dans ce qu'il croit être une tournée triomphale pour ressaisir les droits souverains de l'empereur, et dont il se comprend en fait que c'est l'inventaire des différences, et des différences irrattrapables. C'est-à-dire que l'Italie est devenue un pays de ville, et il comprend immédiatement qu'il ne pourra plus reprendre les droits impériaux. Impressionné par leur prospérité, scandalisé par leur autonomie, l'auguste prélat allemand s'indigne donc de l'indiscipline des Italiens. Ils aiment si fort la liberté qu'ils refusent tout excès de pouvoir et préfèrent pour les diriger des consuls à des chefs. Et c'est un scandale. Voilà, il est le scandale est dans le fait que les Italiens se choisissent des consuls, c'est-à-dire ornent d'un beau nom latin, d'un souvenir de la Rome antique, cette détestable habitude de délibérer, consulere. Et de cela, on devra faire l'histoire effectivement pratique, pragmatique, calme, mais en n'oubliant jamais l'explosivité, la puissance d'indignation de ceux qui voient ça pour la première fois. Or, ce qui est très intéressant, c'est que on ne saisit jamais cette effervescence. On saisit seulement sa stabilisation dans les normes. Un des sports préférés des historiens de l'Italie communale, c'est de repérer les premières attestations documentaires de l'apparition des consuls dans leur ville. 1081 à Pise, 1095 à Asti, 1097 à Milan. Mais dès qu'ils apparaissent, ils sont déjà là. À aucun moment on nous dit, et pour la première fois, non. La première attestation documentaire nous présente déjà une habitude prise. C'est pour ça qu'il n'y a pas de révolution communale, parce qu'il n'y a rien à commémorer, il n'y a pas d'événement fondateur. Lorsque ça arrive, c'est déjà là. Et il y a, du point de vue documentaire, quelque chose de tout à fait intéressant, comme une sorte d'inversion de relief pour les géographes, hein, vous savez, qui laisse des vals perchés ou des buts témoins. C'est que, justement, ce qui est documenté, ce n'est pas l'effervescence des commencements, c'est la stabilisation. Et donc, on sait, c'est la première attestation, disons, de l'efflorescence documentaire, mais pas de l'effervescence politique. Bon. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est tout sauf accidentel et qui doit nous permettre de comprendre le tempo propre de l'expérience communale, avec des périodes de fusion et de confusion, d'effervescence et de stabilisation, et que ce tempo est aussi celui des historiens qui regardent l'expérience communale, parce qu'on a eu évidemment des grands moments de ferveur et des moments de refroidissement historiographique. Ferveur au début du XIXe siècle, ou un moment de renouvellement de l'expérience communale, à partir desquels, effectivement, au fond, ce ressaisissement de la tradition célèbre le temps des libertés urbaines en Italie comme le premier acte de l'histoire de l'émancipation humaine. Songez évidemment à ce moment fondateur, en fait, emblématique de ce courant libéral au sens du XIXe siècle, qui est l'historien et philosophe suisse Jean-Charles Léonard Sismondi de Sismondi, qui écrit entre 1807 et 1818 sa monumentale histoire des républiques italiennes du Moyen-Âge, qui est la première grande synthèse européenne sur l'histoire des villes italiennes, dont le succès est prodigieux et prodigieusement politique, dont l'influence est durable, qui doit aussi cette influence à sa puissance narrative, parce qu'il s'appuie sur les anciennes chroniques, parce que justement, il donne à entendre, à comprendre ce grondement de l'événement, et parce que, au fond, dans un style épique, pour narrer l'histoire glorieuse de villes éprises de liberté, eh bien, il montre, et d'une certaine manière, on est à un moment qui est le moment où ces lieux de mémoire deviennent, dans les années 1840, aussi à des fins politiques, le temps des grandes espérances, eh bien, au fond, on a cette période d'effervescence historiographique. Depuis lors, pas toute l'historiographie des villes italiennes, c'est stupide, mais vous savez que nous sommes actuellement plutôt dans une phase de refroidissement, de dépolitisation. L'anthropologie politique ou juridique de la délibération, du suffrage, sert plutôt, sinon à dépolitiser, du moins à calmer les ardeurs des historiens qui voudraient voir là la généalogie glorieuse des libertés politiques. Au point, d'ailleurs, que d'autres historiens comme Mario Ascheri réagissent contre, je le cite, la façon dont on nivelle aujourd'hui et dont on noie l'expérience communale en refusant de reconnaître l'existence d'une formation étatique communale, témoignant ainsi de la tendance récente à repolitiser l'histoire des communes italiennes, notamment en étant plus attentif aux pratiques d'assemblée, de gouvernement, etc., à une participation de la vie publique d'une ampleur jamais envisagée ni expérimentée auparavant, je le cite. Et vous l'avez entendu, cette reprise en main historiographique passe, sinon par un retour d'expérience, du moins par un retour du mot d'expérience. On néglige l'expérience communale, c'est la première fois qu'on expérimente, etc. Pourquoi ? Eh bien parce que justement le mot même d'expérience aujourd'hui dans l'historiographie est plutôt accaparé par les historiens qui renouvellent en profondeur autour d'Andrea Zorzi ou de Jean-Claude Merwiger ce qu'ils appellent justement les expériences seigneuriales. Le terme d'expérience est passé à la seigneurie pour désigner aussi d'ailleurs un temps incertain qui est celui des expérimentations politiques. Alors c'est très bien parce que ça permet effectivement de dédramatiser l'opposition entre commune et seigneurie. Ça permet de montrer qu'il n'y a pas là une coupure entre deux régimes antagonistes, mais une bifurcation entre deux devenirs historiques possibles de la commune. La seigneurie, c'est-à-dire l'accaparement par un seul et sur un territoire plus large que la commune des pouvoirs civiques, est la continuation de la commune par d'autres moyens. Mais cette dédramatisation ne signifie pas nécessairement dépolitisation. Ça ne signifie pas que le drame n'est pas inéluctable, qu'il n'est pas déjà là, qu'il ne peut pas advenir. Ça signifie que la puissance dramatique, par exemple, des images, précisément, revient à précipiter l'antagonisme. C'est le cas dans la fresque du Bon Gouvernement qui fait advenir cette opposition idéale typique entre commune et seigneurie. Le drame de la seigneurie, c'est de durer, car alors elle ne cesse d'être une expérience seigneuriale. Elle investit la commune pour convertir. Et de tout cela, on aura à reparler, ne serait-ce que pour saisir la logique spatiale de cette tension entre effervescence et refroidissement historiographique. La deuxième dimension de cette expérience communale, c'est qu'elle désigne donc non seulement le temps du commun, discontinu, hétérogène, mais l'espace du commun. Et là encore, on s'est avisé récemment du caractère urbain des insurrections, l'occupation des places, la redécouverte de la géographie d'inspiration marxiste d'Henri Lefebvre sur le droit à la ville, l'espace public qui n'est pas qu'un lieu abstrait, la question des res communes qui consiste à savoir si ce sont encore des choses. Je signale, mais là, hein, le temps presse et puis on aura bien à en reparler, que cette inadéquation entre le lieu commun, le lieu public et l'espace public, c'est-à-dire que l'espace public est une des potentialités du lieu public qui ne se réalise pas systématiquement dans des espaces qui ont la qualification architecturale d'être public, qui peut d'ailleurs se réaliser partout ailleurs. Ce sont ce que Oscar Necht, un habermasien critique, appelle les espaces publics occasionnels, et on voit très bien que, par exemple, dans les communes médiévales, et d'ailleurs modernes, l'espace public est une sphère abstraite qui ne tolère pas nécessairement d'être localisé quelque part. C'est-à-dire qu'on peut avoir des lieux publics qui ne fonctionnent pas comme espaces publics et des espaces publics qui logent, par exemple, non seulement dans des espaces privés, mais dans des entre-deux. D'ailleurs, sur le plan juridique, l'occupation des places, à commencer par Occupy Wall Street, on a montré qu'il s'agissait d'entre-deux juridiques qui n'étaient pas tout à fait des espaces publics, mais des lieux privés qui étaient soumis à un usage public. Ce qui nous amènera, je pense, à qualifier avec un peu plus de rigueur qu'on le fait d'ordinaire en confondant lieux communs et communs des lieux et mise en commun des lieux. Avec évidemment l'appui du droit, de ce qu'a dit Yann Thomas, etc., là-dessus, une manière de comprendre ce qu'il y a, peut y avoir de commun dans l'usage des lieux. Et puis, je terminerai par ce qui, me semble-t-il, est le plus saillant aujourd'hui, c'est que l'expérience communale s'éprouve, je l'ai dit, en tant qu'elle affecte des corps parlants, et donc s'éprouve par une langue du commun. Cette langue du commun, elle décrit finalement ce qu'on peut désigner, qualifier dans une vie politique comme nous appartenant en propre. Au fond, faire commune, c'est faire l'expérience d'une langue commune. Et qu'est-ce que c'est que la communitas ? Eh bien, on l'a déjà dit, toutes les langues néo-latines opposent le commun au propre, et c'est donc l'idée de proprium qui délimite ce qui peut être communis. Donc, par conséquent, il faut, là encore, avec le droit romain, avec Yann Thomas, décrire précisément les choses qui appartiennent à tout le monde et celles qui n'appartiennent à personne. Mais quelle chose le bien commun met-il en commun ? C'est à ce point du raisonnement que le philosophe Roberto Esposito, dans Communitas, Origine et destin de la communauté, nous détourne vers une autre philosophie de la communauté, en explorant l'étymologie ignorée et un peu hasardeuse, il faut dire, mais bon, c'est pas grave, les médiévistes aiment bien les étymologies fautives, de communitas, cum munus, qui renvoie à ce munus qui peut désigner conjointement le don, la charge, le devoir. Il en résulte que la communitas est l'ensemble des personnes unies, non par une propriété, mais très exactement par un devoir et une dette. Ainsi trouve-t-on un autre couple d'opposition entre communitas et immunitas. Est commun, celui qui est ce qui est tenu de remplir un office, est immunis, celui qui en est exempté. Et donc, la notion de bien commun peut prendre ce sens très politique, très exigeant, à certains moments de l'histoire urbaine, ou de l'histoire tout court. Et donc, c'est cette puissance de la langue commune qui tantôt devient plus énergique et tantôt s'affadit, tantôt, à force d'être usée, répétée, usagée, essorée, tournée en tous sens, perd, effectivement, deviennent les mots évidés, et tantôt sont au contraire les mots évités, qui sont les mots du litige et qui sont ceux de la langue du commun. Donc vous voyez, et j'en terminerai par là, que quand bien même l'on voudrait se contenter de penser l'expérience communale, dans un cadre historique déterminé, disons les communes de l'Italie médiévale. Il ne serait pas très sérieux de ne pas faire tout ce travail, ne serait-ce que pour repérer et, si possible, pas nécessairement neutraliser, mais en tout cas identifier tous les sens subreptices de ce que « commune » veut dire. Parce qu'on ne peut pas faire comme si nous étions, face à l'expérience communale, surtout aujourd'hui, dans une position de neutralité. Et on n'a pas nécessairement à décaper ou à désamorcer l'explosivité de cette langue du commun, mais à repérer ce qu'elle peut avoir aujourd'hui à offrir de renouvellement. Parce que l'expérience communale est aussi celle des effets plus ou moins pernicieux de la transparence. À travers elle, se discernent ou se confondent différentes expériences situées du rassemblement des corps. Et l'expérience communale, c'est aussi l'empilement des expériences accumulées. Et voilà pourquoi c'est aussi une histoire de lieu, de la capacité des lieux à faire du lieu commun. Voilà pourquoi, comme Adrien Genoudet va nous le dire, c'est aussi, je dirais, une histoire visuelle, parce que, au fond, ce qu'on a à saisir, c'est à partir de ces effets de succession, des effets de transparence. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit de nous à travers ces expériences du passé. Qu'est-ce qu'on voit de nous à travers ces expériences du passé ? On peut le deviner dans la manière dont Peter Watkins, en 1999, invente la forme cinématographique de l'histoire adéquate à ce qu'il veut donner à voir, ce qu'il appelait, je le cite, « le processus de contestation durable ». Je fais allusion évidemment à ce film expérimental qu'est La Commune, qui filme, 6 heures durant, à la fois l'œuvre collective en train de s'accomplir dans le Paris de 1871 et le renouvellement de l'expérience par le tournage du film en tant qu'il est lui-même une résurgence. Mais cette résurgence expose d'elle-même avec candeur, avec probité, son artifice, par l'usage de l'anachronisme, puisque c'est, vous vous souvenez peut-être, si vous avez vu le film, une équipe de télévision qui vient interviewer ceux qui sont en train de faire l'expérience de la Commune de Paris. Donc, historiquement et artistiquement, ce film constitue, et dans les deux sens que j'ai tenté de thématiser, une expérience. Et comme l'écrit Antoine de Beck dans l'Histoire caméra, Watkins filme à la fois son propre film et l'histoire de la Commune, les deux en train de se faire et de se défaire. De se faire et de se défaire. Ce qui se fait et se défait, c'est l'action et l'attente, c'est l'espoir et la peur, c'est la parole vive et la lassitude des corps. C'est cet effet physique lancinant de la fatigue. Et c'est, effectivement, cette expérience projetée du commun, reprendre le titre de ce qui va suivre. Voilà ce que j'avais à vous dire pour commencer. Peut-être, avant de t'entendre, Adrien, si vous avez des remarques, des critiques, des suggestions, vous savez qu'on est dans une sorte de radicalité c'est 3 heures sans pause, donc c'est rude, ça crée des effets. Donc voilà, la discussion est ouverte.